Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est à ce genre de détails qu'on mesure les évolutions de la société. Autrefois, lorsque vous alliez au restaurant avec une personne végétarienne, c'est elle qui se confondait en excuses. « Désolé, je ne mange pas de viande ». Aujourd'hui, la charge de la culpabilité a changé de camp. « Ça ne te dérange pas si je prends un steak ?» Alors certes, les végétariens ne sont encore qu'une petite minorité, mais ils sont sortis de la marginalité et ils témoignent d'un changement profond de nos habitudes alimentaires. Autre exemple, l'engouement pour les produits bio. Pas un supermarché désormais qui ne leur dédie un minimum d'espace. Certains produits ont même fini par s'imposer comme des objets de grande consommation, ainsi les œufs et le lait. Plusieurs grandes enseignes viennent même de s'engager à ne plus vendre d'œufs de poule élevés en batterie. Alors est-ce la raison du succès ? En décembre dernier, des magasins se sont retrouvés en rupture de stock. Pénurie de produits laitiers bio, en cause une mauvaise météo, mais aussi un manque d'anticipation d'une demande qui ne cesse pourtant de croître depuis quelques années. Alors est-ce parce que la filière agricole rechigne à se lancer dans de telles productions ou parce que cette demande est encore trop fragile pour être économiquement intéressante ? L'agriculture française doit-elle et saura-t-elle se convertir aux nouvelles pratiques alimentaires ? C'est la question que nous posons ce soir à nos invités, à commencer par vous, Stéphanie Pajot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de la FNAB, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique. Vous êtes par ailleurs productrice de lait bio en Loire-Atlantique. Vous êtes à Paris ces jours-ci pour le grand oral des candidats à la présidentielle sur ces questions de filière bio. Grand oral qui avait lieu hier soir, c'est bien ça ?
Hier après-midi, oui, tout à fait.
Avec beaucoup de candidats à la présidentielle ou de leur, des représentants.
Yannick Jadot s'est déplacé. Par contre, les autres candidats se sont fait représenter. Mais enfin, ils ont tous été là et ont tous réaffirmé leur volonté de faire de la France le premier pays bio d'Europe.
Alors, on voit bien qu'on est en campagne électorale. Pour discuter avec vous ce soir, Samuel Vandel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes producteur de céréales en Seine-et-Marne depuis 2016. Vous produisez également de la betterave, du maïs, du colza. C'est ce que j'ai pu lire sur le site du syndicat Jeunes Agriculteurs, dont vous êtes le secrétaire général. Oui. Troisième invité, Vincent Châtelier, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, ingénieur de recherche à l'INRA. Vos recherches portent notamment sur les filières agricoles, filières françaises, européennes et mondiales. Et puis notre quatrième invité, il est au téléphone depuis Toulouse, c'est Philippe Pointereau. Bonsoir.
Bonsoir, je suis là de Toulouse.
Vous êtes Philippe Pointereau, agronome, spécialiste d'agroécologie. Vous dirigez le pôle agro-environnement du bureau d'études Solagro, un bureau d'études qui a développé un projet qui s'appelle AFTER 2050, et qui a élaboré un scénario chiffré de transition de l'agriculture française vers un modèle écologique, et ce, à l'horizon 2050, comme l'indique le nom de ce projet. On va avoir évidemment l'occasion d'expliquer en quoi il consiste. Mais je voudrais d'abord qu'on démarre avec vous sur ce constat que je faisais en introduction à cette émission d'un changement dans les pratiques alimentaires, une alimentation peut-être moins carnée aujourd'hui, pas seulement parce qu'il y a des végétariens, mais aussi parce que les consommateurs font un peu attention à manger moins de viande, le développement des produits bio. Est-ce que cette perception d'un changement dans les pratiques alimentaires, vous la faites vous aussi, Stéphanie Pajot ?
Oui, tout à fait. En tout cas, la croissance de l'agriculture biologique et la demande des consommateurs, on le vit au quotidien. Nous, on fait de la vente directe et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens qui viennent nous voir pour consommer bio. Et puis, globalement, la filière a vécu une croissance de 2016 sans précédent, avec plus de 20% de ventes dans tous les circuits de commercialisation, hein, que ce soit la vente directe, les magasins spécialisés ou la grande distribution. Et puis effectivement, les consommateurs bio en particulier sont sans doute plus vigilants sur leur consommation de viande et ont tendance à davantage consommer de fruits et légumes. Ils consomment de la viande, mais moins. Ils préfèrent de la qualité à la quantité.
Alors le changement de pratiques alimentaires, il ne concerne d'ailleurs pas que la filière bio. Hein, ça peut être aussi sur d'autres façons de consommer, sur d'autres produits qu'on consomme. Est-ce que vous aussi, vous en faites le constat, Samuel Vandel ?
Alors on voit qu'il y a eu un changement qui s'est opéré ces derniers temps et les gens sont plus vigilants à ce qu'ils consomment. D'une manière très générale, ils sont plus attentifs aussi à tous les logos, aux signes de qualité, l'étiquetage, avec le décret là qui est paru et qui est tombé donc le 1er janvier, qui va obliger à ce que tous les produits, lait et viande entre autres, soient étiquetés nés, élevés, utilisés et transformés dans le pays. Donc oui, ils sont plus attentifs à ça. Ça rejoint ce que disait ma collègue, entre autres aussi sur le bio. Il y a un changement qui est en train de s'opérer dans ce sens-là, et donc il faut qu'on y soit vigilant.
C'est un changement qu'on pourrait qualifier de profond, Vincent Châtelier, ou bien est-ce qu'il faut d'abord l'inscrire dans une évolution beaucoup plus longue et de pratiques alimentaires qui n'ont jamais peut-être cessé d'évoluer finalement?
Je pense qu'il faut prendre de la distance sur les phénomènes conjoncturels. On a une division par deux de la consommation de vin par habitant en France en 40 ans. On a perdu à peu près une dizaine de kilos de viande en 15 ans. On est en recul de la consommation de produits laitiers tous les ans aussi. On est en recul ou en léger recul de la consommation de pain. Ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment une baisse tendancielle de la consommation des produits un peu primaires. Il y a aussi des formes de diversification, les sushis et compagnie. Et puis, il y a surtout des changements dans les modes de rapport à l'alimentaire. C'est-à-dire que les gens consomment de plus en plus nomades, consomment pas nécessairement à tous les repas, et consomme d'une manière un peu différente des générations précédentes. Donc c'est la modernité, mais dans des tendances de long terme qui, évidemment, pèsent et interpellent beaucoup l'agriculture.
Est-ce que, Philippe Pointereau, ce qui pourrait peut-être distinguer l'évolution de ces comportements alimentaires du moment, ou en tout cas de ces dernières années par rapport aux évolutions précédentes, ça pourrait être la place peut-être plus grande de ce qu'on appelle l'alimentation éthique, en tout cas de la dimension éthique de l'alimentation. On fait un peu plus attention aux effets que l'on produit quand on consomme tel type de produit, justement.
Bah, c'est sûr que dans les enquêtes qui sont menées, on voit bien que la santé est importante dans ces changements, mais aussi l'environnement. Donc les gens prennent en compte aussi ce souci de l'environnement. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, enfin, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment, mais ce qui est important aussi, c'est de voir le lien entre les choses, quoi. C'est-à-dire que on a aujourd'hui une nouvelle génération de consommateurs qui, comme l'a dit Stéphanie, consomment bio, consomment plus végétarien. Et puis aussi, par exemple, utilise beaucoup plus tous les circuits courts, hein, qui sont assez importants. Hein, 20% des agriculteurs utilisent des circuits courts aujourd'hui. Et donc, on a une sorte de nouveau paradigme qui est en train de se créer, de consommateurs qui sont finalement responsables un petit peu de tout, quoi, de leur santé, de l'environnement, des paysans. Voilà, et c'est ça, je pense, qui est en train de changer sur le long terme. Après, faut quand même bien noter aussi que la particularité de la France, qui est vraiment son gros atout, c'est que les gens aiment manger, prennent du temps à manger, et que finalement, les trois repas quotidiens sont quand même la clé de voûte et résistent fortement, même s'il y a une légère érosion chez les jeunes. Ces trois repas-là nous distinguent quand même des pays du Nord.
Alors, est-ce que le fait qu'il y ait cette nouvelle génération de consommateurs se traduit aussi dans un renouvellement, en tout cas dans une modification de la génération des agriculteurs? Ou autre façon de poser ma question, Samuel Vandel et Stéphanie Pajot, est-ce que quand on est agriculteur, en tout cas, on est obligé d'être attentif à ces évolutions pour éventuellement s'adapter?
Alors forcément, aujourd'hui, on est obligé d'être plus attentif peut-être que dans le passé, parce que on estime que à partir du moment où il y a une demande, il faut répondre à cette demande et il faut qu'il y ait l'offre en face. Donc ça, c'est vraiment important. Il s'agit pas d'avoir plus d'offres de demandes, parce que dans ces cas-là, on aurait un effondrement du prix, et entre autres, par exemple, sur le bio, je pense qu'il faut aussi suivre cette courbe-là. Attention à pas arriver à du... Je pense que le tout bio dans une région, on a pu le voir aujourd'hui dans certaines régions où ils disent il faut tout passer au bio. Moi, je me dis,
pense à quelle région en particulier? Il y a des régions qui ont ce projet-là de passer tout
au
bio.
Oui, dans le sud de la France aujourd'hui, en Occitanie, il y a ce projet-là. Ça a été dit, ça a été publié, ça a été écrit. Je suis pas sûr que ça soit une très bonne chose pour les agriculteurs bio en place là-bas, parce que il y a de fortes chances que ça puisse faire effondrer le prix des produits biologiques. Aujourd'hui, chaque produit a un prix, a un coût de production, et il faut qu'il soit respecté.
Stéphanie Pajot.
Ben, en fait, au-delà du marché, je pense qu'il y a une attente sociétale forte, c'est-à-dire que il y a aussi, je pense que le consommateur a envie de savoir en quoi l'agriculture pèse sur l'environnement, sur son paysage, etc. Et donc, de ce point de vue-là, l'agriculture biologique répond à ces grands enjeux au-delà du système alimentaire. Donc c'est pour ça important. Après, effectivement, sur l'organisation du marché, je pense que l'important pour les productrices et producteurs bio, c'est d'être en capacité effectivement de vendre leur production. Et c'est tout l'enjeu aussi de diversifier ces circuits de commercialisation. Je pense que la grande erreur qu'a fait une partie des filières conventionnelles, c'est de se spécialiser dans une production et dans une filière, en particulier filière longue, qui dépendent énormément finalement d'un seul acheteur, en particulier en lait, où finalement une seule laiterie vous achète le lait et c'est elle qui décide du prix. Donc on incite nous, les productrices et producteurs, à essayer d'être plus autonomes sur leur circuit de commercialisation, à le diversifier, si possible à faire, quand ils le souhaitent, en vente directe, ou en tout cas mener des actions collectives pour diversifier et éviter de dépendre d'un seul acheteur.
Alors Samuel Vandel, vous évoquiez les risques de surproduction qui sont sans doute réels, sauf que ces dernières semaines, on a plutôt fait le constat de l'inverse, du phénomène inverse. Petite anecdote personnelle, je vais faire mes courses le samedi matin dans un supermarché à Paris et pendant plusieurs samedis de suite, le rayon lait bio, qui était en UHT, j'imagine, ce rayon-là était en rupture de stock. Vincent Châtelier, est-ce que ça signifie que la production de lait bio aujourd'hui a du mal à répondre à une demande qui serait de plus en plus importante?
Alors, si on parle spécifiquement du lait, il faut remettre votre question dans son contexte. Aujourd'hui, le lait bio en France, c'est 580 millions de litres produits. Et c'est produit dans 2500 exploitations laitières sur les 60 000 qu'il y a en tout. Donc le lait bio, il est valorisé, il est collecté, mais il est valorisé essentiellement par le canal du lait de consommation qui vous a concerné. Et en gros, en France, vous avez 7% du lait de consommation qui relève du bio. Mais vous avez moins de 1% des fromages qui relèvent du bio. Vous avez moins de 2% du beurre, etc. Ça veut dire qu'en fait, il y a certains produits où la croissance, comme ça a été évoqué tout à l'heure, est tout à fait significative et peut conduire à des moments, à certains moments, à une certaine rupture. Mais pour autant, il faut quand même saluer les efforts qui ont été faits par la filière française. On a quand même doublé la production de lait bio rapidement et on a plus 1000 fermes en bio en l'espace d'une dizaine d'années, ce qui est quand même tout à fait significatif, et qui doit être pris en considération parce que le problème de l'instantanéité...
Oui, mais manifestement, doubler la production, ça ne suffisait pas pour alimenter la demande, pour répondre à la demande, si
Alors, il faut savoir que parallèlement aujourd'hui, en France, on a une collecte laitière, toutes catégories confondues, parmi les plus faibles des 10 dernières années quasiment, parce qu'il y a eu une crise laitière qui n'a pas affecté le lait bio, mais qui a conduit à ce qu'il y a eu des modifications dans l'appareil industriel aussi derrière ça. Donc on est dans une situation conjoncturelle où les volumes globaux collectés sont quand même assez faibles, ce qui peut avoir des effets, mais qui n'explique pas le caractère peut-être un peu soudain de votre souffrance là, dans votre magasin, qui doit être remis dans une dynamique vraiment positive. Les agriculteurs français s'adaptent.
Stéphanie Pageau, vous qui êtes productrice de lait bio, est-ce qu'on est face là à ce problème? Enfin, je suis pas le seul à l'avoir vécu, puis il a été constaté dans pas mal de régions françaises. Est-ce que c'est un problème qui est purement conjoncturel, c'est-à-dire il peut y avoir pendant une période courte un problème d'adaptation de l'offre par rapport à la demande, ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus structurel que vous voyez venir depuis un petit peu plus longtemps?
Nous, on le voit venir depuis un petit peu plus longtemps. On sait, il faut anticiper en fait le marché de la bio 2 ans à l'avance, puisqu'il y a 2 ans de conversion entre le moment où l'agricultrice ou l'agriculteur décide de passer en bio et le moment où réellement il peut valoriser en bio. Et donc, en fait, c'est la capacité d'anticipation et de croire en la filière bio. Et donc, nous, à l'interprofession laitière, il y a 2 ans, on leur a dit on va manquer de lait bio. Et un certain nombre d'acteurs ont voulu rester très prudents sur le sujet et n'ont pas voulu lancer des animations sur les territoires pour inciter les producteurs à passer en bio. Ce qui fait qu'effectivement, en plus, on a eu une croissance quasi inédite en 2016 en lait, mais dans toutes les productions en bio. Et donc, pour le coup, on s'est retrouvé dans une situation où, effectivement, dans certains magasins, c'était les bouteilles, dans d'autres magasins, c'était du beurre qui manquait, parce qu'effectivement, on ne peut pas produire en bio tout d'un coup plus 20% parce que la demande est là. Il nous faut du temps.
C'est toute la question, Philippe Pointreau, de l'anticipation. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'agriculture, on est suffisamment bien armé, mais c'est, j'imagine, compliqué, pour savoir ce que pourra être l'état de la demande d'ici, alors, 2 ans, pour rester sur l'exemple de la durée nécessaire pour faire une conversion en bio? Et est-ce que c'est une des raisons pour laquelle vous vous êtes lancé dans ce programme de quasi-planification sur plusieurs décennies de ce que pourrait être l'alimentation des Français et donc la façon dont l'agriculture pourrait y répondre?
C'est-à-dire que nous, on a fait, il y a eu 2 constats qu'on a fait. Hein. Il y a quand même les enjeux de santé publique. On a quand même presque une pandémie de tout ce qui touche l'obésité et le diabète de type 2 qui se développe. Les cancers, les diabètes de type 2 et les cancers, c'est plus de 200 000 personnes par an, qui coûtent à peu près 6 000 euros par personne et par an. Donc c'est des milliards d'euros que paye la sécurité sociale. Donc on se demande comment on pourra continuer à payer. Donc il y a un enjeu de santé publique et puis il y a un enjeu environnemental parce que on a quand même le changement climatique. Avec un objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en 2050. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'alimentation, c'est 25%. Ça veut dire que si on ne fait rien, les émissions de gaz à effet de serre liées à notre alimentation sera exactement notre quota de CO2 en 2050. C'est-à-dire qu'on ne pourra rien faire d'autre. Donc il faut que l'alimentation change pour des raisons d'environnement, pour des raisons de santé publique. Et donc nous, on essaye d'anticiper par rapport à ça, parce que, ce qu'on a voulu faire, c'était simplement de voir comment la feuille de route qui est décidée par le gouvernement français et l'Union européenne pouvait se mettre en œuvre. Donc nous, on a essayé, il y a des enjeux, par exemple, restaurer la qualité des masses d'eau, réduire la consommation de pesticides, etc. Et donc on a essayé de voir comment ça pouvait le faire. On voit que c'est possible, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour que ça soit possible, il faut vraiment changer notre alimentation et faire exactement ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire en gros diviser par 2 la consommation de viande et de produits laitiers, donc c'est-à-dire consommer des produits de qualité, des systèmes bovins nourris à l'herbe et pas au maïs en silage et au soja OGM d'Amérique du Sud, des produits de qualité. Ça veut dire, pour aller vers cette tendance-là, ça veut dire quand même une restructuration assez forte, quoi.
Alors justement, j'aimerais savoir, je vais vous redonner la parole dans un instant, Philippe Pointreau, mais ce qu'en pensait Samuel Vandel et Vincent Châtelier de cette initiative, c'est-à-dire qui est une initiative qui ne se limite pas à observer la façon dont évolue le marché, donc la demande, mais qui est aussi une initiative de dire, voilà, la France a pris un certain nombre d'engagements. Pour tenir ces engagements, il faut que nous modifions notre façon de consommer des aliments, et donc il y a peut-être des actions un petit peu plus proactives à prendre. Samuel Vandel, alors ça peut être peut-être intéressant en termes d'anticipation, parce que ça peut permettre aux agriculteurs d'avoir un cap, de savoir vers quoi on se dirige et donc de s'adapter de manière peut-être un peu moins risquée.
Alors c'est très compliqué de pouvoir voir demain qu'est-ce que sera la consommation, et c'est là toute la difficulté. Aujourd'hui, nous, ce qui nous paraît important, c'est, on en a parlé à l'instant, hein, la qualité. Aujourd'hui, toutes les produits agricoles français sont de qualité quand on les compare à tous les produits que l'on apporte. C'est pour ça que, d'une manière générale, l'étiquetage, on est pour. Après, sur les attentes, il faut qu'on les suive, il faut qu'on les anticipe, par exemple, sur les attentes sur le bio, parce que, oui, il y a ces 2 ans-là qui sont là, et on ne peut pas changer et augmenter tout de suite cette production. Mais ce n'est pas par des mesures répressives qu'on arrivera à changer les choses. C'est-à-dire que il faut déjà, pour moi, changer si on veut demain une agriculture bio forte ou avec des labels forts, il faut qu'on puisse changer les mentalités, même sur de la consommation française, et après, et au fur et à mesure, on s'adapte. Mais si demain, on se met encore une fois à faire que du label et que ça ne répond pas à la demande du concitoyen, alors on se sera planté.
Il faut que ce soit viable économiquement, Vincent Châtelier.
Oui, il faut que ça soit viable économiquement. Ce qu'il faut surtout, c'est accepter l'idée qu'on est dans un pays magnifique au plan agricole.
Ça, on peut l'accepter facilement.
Oui. Magnifique au plan agricole parce qu'il y a peu de pays dans le monde où on offre aux consommateurs une aussi belle diversité de produits alimentaires. On a parlé tout à l'heure du lait, on s'est arrêté un petit peu sur le lait bio, mais l'univers des produits laitiers en France, c'est bien autre chose que les seuls 7% de lait consommé en bio en liquide. C'est tous les fromages, Donc c'est une diversité qui est absolument exceptionnelle. Alors je veux bien qu'elle n'est pas toujours suffisante et qu'il faille transformer progressivement l'agriculture, mais acceptons cette idée tout de même.
Mais ça veut dire que vous voyez dans ce que propose... Dans ce que propose Solagro, une réduction de cette diversité, un risque de réduction de cette diversité?
Non, je ne me mets pas en opposition avec le travail qui est réalisé. Je veux simplement dire que cette diversité, elle existe, elle est extrêmement forte par rapport à tous les pays européens et que l'ultra-segmentation que nous avons en France est peut-être parfois contraire à l'intérêt de notre agriculture. Parce que je voudrais rajouter l'idée qu'une grande part de notre agriculture est exportée. En année classique, en céréales, vous avez quasiment un kilo de blé sur deux qui quitte la France. Donc, c'est-à-dire que l'agriculture locale est influencée par l'externe. Dans le secteur du lait, vous avez 42% du lait français qui est exporté. Et inversement, vous avez 23% de la consommation de lait en France, produits laitiers, qui vient de l'extérieur. Ça veut donc dire qu'en fait, nos pratiques, il ne faut pas qu'elles soient exclusivement franco-françaises. Il faut qu'on ait un débat très européen sur la question qui a été pointée et de se dire qu'on est dans des rapports de compétition et que les consommateurs qui nous disent qu'ils adorent les produits démarqués sont aussi les premiers, notamment avec l'appui de la restauration hors domicile, à aller acheter au plus bas prix des produits qui sont faiblement démarqués et pas produits par notre agriculture française.
Ça veut dire qu'en tout cas, d'un point de vue économique, c'est pas parce que les Français se mettraient à boire exclusivement du lait bio qu'il faudrait que la filière laitière française passe entièrement au bio, parce que ce serait un problème en termes d'exportation. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte, vous, Philippe Pointreau, dans cette modélisation que vous avez faite, ou bien est-ce que l'idée, c'est de transformer une agriculture qui serait autosuffisante, mais qui oublierait finalement sa capacité à faire des exportations?
Déjà, ce que je veux dire à Vincent, je suis bien d'accord que la France est riche, belle et agréable dans toute son alimentation. Mais enfin, il faut pas se voiler la face. Le lait qui part dans les appellations d'origine contrôlées pour faire du fromage, c'est seulement 7% du lait. L'essentiel quand même du lait aujourd'hui est fait massivement par des exploitations avec du maïs en silage et du soja qui vient du Brésil et qui est bourré de glyphosate. Donc ça, faut pas l'oublier. Faut savoir aussi, par exemple, vous vouliez parler des poules pondeuses, faut quand même voir que 376 fermes, c'est-à-dire rien du tout, produisent à peu près 80% des œufs, essentiellement en cage. Donc il y a quand même, derrière cette façade extrêmement intéressante de l'agriculture française qui fait des paysages à des produits de qualité, il y a quand même une agriculture très intensive qui se développe, qui concentre une grosse part de la production, que ce soit des poulets, des œufs ou des porcs, et qui n'a rien à voir avec le terroir.
Oui, mais c'est une façon, Philippe Pointreau, de répondre à une demande, qui est peut-être pas une demande du marché intérieur, mais en tout cas qui est une demande qui reste extrêmement forte à l'extérieur. Or, l'agriculture, c'est une activité économique.
Oui, mais ce que dit Vincent, c'est on exporte, mais il faut voir aussi ce qu'on importe. Je veux dire, si on regarde les imports-exports en termes de surface, la France n'est pas exportatrice nette. Si on prend les produits du bois, la France est importatrice nette de surface. Donc c'est vrai qu'on exporte beaucoup de céréales, on exporte beaucoup de champagne, de vin et aussi du fromage. Mais enfin, on importe beaucoup de tourteaux de soja, beaucoup de fruits et légumes, le thé, le café, le cacao, les agrumes, etc. Et qu'au final, si on regarde de près, on pourrait presque dire qu'on exporte autant qu'on importe. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on veut faire, c'est refaire évoluer les élevages, faire des élevages qui répondent aux demandes de la société. Donc ce qui se passe sur les poulets en cage, eh ben voilà, ça va évoluer rapidement. Et puis aussi avoir du lait qui est produit à l'herbe et pas du lait qui est produit avec des cultures. Et ça, je pense que si les Français, on les informe de ça, ils vont changer aussi leur mode de production, de consommation. Et donc on va comme ça réduire les tourteaux de soja OGM qui viennent du Brésil. On va redéployer des surfaces en légumineuses sur notre territoire, donc il va y avoir des changements. On va continuer d'exporter. En particulier, on va exporter des céréales vers le Maghreb et le Moyen-Orient, qui sont des pays qui sont loin d'être autosuffisants et où leur autosuffisance va encore se dégrader. Donc il ne s'agit pas de s'enfermer, il s'agit de faire que notre agriculture réponde mieux aux demandes locales et sera d'autant plus protégée des marchés mondiaux, parce que il y a toujours un endroit dans le monde où on peut produire moins cher qu'en France.
Je vois que Stéphanie Pajot, je suis pas très étonnée, mais acquiesce à vos propos, Stéphanie Pajot.
Oui, non, c'est vrai que l'agriculture française s'est donnée pour ambition d'aller nourrir le monde. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on avait cette prétention-là. On n'est pas en capacité de nourrir le monde. Il faut laisser aux paysans du Sud la capacité de produire eux-mêmes dans la mesure du possible, et c'est pas en exportant à bas coût grâce à nos subventions européennes qu'on va résoudre le problème. Donc je pense qu'il faut aller se mettre en concurrence avec la Nouvelle-Zélande sur le lait est complètement illusoire. Nous ne serons pas en capacité en France d'être compétitifs avec la Nouvelle-Zélande et leur système de production. Donc incitons les producteurs à aller sur la qualité. Effectivement, les consommateurs veulent aller sur la qualité. Évitons effectivement la spécialisation. Et moi vraiment, j'ai envie aujourd'hui de dire que tous ceux qui passent en bio, ils sont fiers de retrouver un métier proche de la nature et du lien au sol. Et ils sont, je dirais, ils sentent qu'ils sont dans la demande sociétale. Et je pense que ça redevient une fierté. Alors qu'effectivement, sinon, ils ont l'impression d'être stigmatisés et c'est compliqué pour eux.
Est-ce que vous avez l'impression d'être stigmatisé, Samuel Van Halen?
Alors, vous qui ne faites pas de bio. Alors, moi, pas du tout. Je suis vraiment heureux de faire le métier que je fais aujourd'hui. Quoi, voilà.
Donc, je rappelle, je disais au départ, vous faites des céréales, voilà. Betteraves, maïs, colza?
Colza aussi, et à côté j'ai aussi d'autres activités. On a mené une chaudière biomasse où on fournit du chauffage aux habitants, on collecte les eaux usées avec un phytoépurateur, avec des plantes. Voilà, moi je suis fier et on est fier de travailler du vivant, de travailler avec du vivant, travailler les sols et de nourrir, de faire une agriculture de qualité, des aliments de qualité. Moi je voudrais juste faire revenir et faire attention à ce qu'on peut dire ou donner comme penser à nos citoyens qui nous écoutent, c'est ils veulent consommer mieux, oui, certainement, et je voudrais faire référence à une enquête qui avait été faite dans une autre émission, où 90% des Français disent qu'ils veulent manger bio, et 10% le font seulement. Voilà, c'est cette différence-là.
Les gens à la télé, hein, qui veulent faire de la culture, choses. Mais qui regardent pas beaucoup Arte.
On veut tous rouler en voiture électrique, et il y a encore énormément de voitures diesel. Donc, il faut changer progressivement les choses. Il faut qu'on s'adapte, mais attention à ne pas opposer les systèmes, ne pas opposer les filières. C'est bien cette agriculture dans toute sa diversité qui fait qu'on ait une belle agriculture. Vincent Châtelier l'a bien dit avec nos diversités des fromages et tout, qui sont pas forcément en bio, mais qui répondent aussi à un cahier des charges, qui sont des signes de qualité et qui respectent l'environnement et nos sols, le vivant de nos sols.
Alors justement, par rapport à la question de l'adaptation, qui peut être une adaptation plus ou moins progressive, hein, on l'entend bien selon vos propos, mais en tout cas, ça suppose, quand on est dans une démarche d'adaptation ou de conversion, de faire un certain nombre justement de démarches, j'imagine, administratives, d'investissement, parce que quand on change de sa façon de produire, il faut aussi sans doute changer les investissements. Est-ce que c'est facile aujourd'hui, Vincent Châtelier, de changer la nature de sa production? Par exemple, je produis aujourd'hui du lait, bon, on va rester sur cet exemple, du lait qui n'est pas bio et je veux me lancer dans le bio. Ou bien, j'élève des poules en batterie et je veux me lancer dans un élevage de poules à l'air libre pour obtenir le label bio. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait, si ce n'est immédiatement, en tout cas rapidement, ou bien est-ce que ça prend beaucoup de temps? Comment ça se passe?
D'abord, il faut vouloir le faire. Parce que quand on est engagé dans un système productif, on a fait un choix, souvent coûteux, on a beaucoup investi, et il y a une majorité d'agriculteurs qui n'ont pas envie de changer de système productif, même s'ils ne sont pas contre le système qui est en face d'eux. Donc il faut d'abord vouloir changer. Et c'est vrai que parmi ceux qui veulent changer et qui y arrivent, il y a beaucoup de gens qui sont très satisfaits. Beaucoup de gens qui étaient une personne qui était en agriculture conventionnelle et qui, 4-5 ans après être passé en bio, sont plutôt satisfaits. Mais il y a une écrasante majorité d'agriculteurs qui n'ont pas envie de changer parce qu'ils ont eu des investissements et qu'ils ont le sentiment de faire des produits de grande qualité quand bien même sont-ils dans l'agriculture conventionnelle. Et l'agriculture conventionnelle, vous prenez les vaches allaitantes en France, c'est un système qui n'est pas en agriculture biologique, mais ce sont des systèmes extrêmement respectueux de la nature en moyenne, même s'il peut y avoir des cas particuliers. Et donc il y a beaucoup d'agriculteurs issus de l'agriculture conventionnelle qui font leur métier avec le sentiment de bien l'exercer, d'être respectueux, et qui veulent pas changer. Alors ceux qui veulent changer, faut deux trois choses pour réussir. La première chose, faut avoir du temps devant soi. On change pas en 5 ans, on ne revient pas sur ses investissements en 5 ans en agriculture. C'est un secteur dans lequel le capital mobilisé est important et finalement il y a pas suffisamment de rentabilité pour arriver à revenir rapidement sur un investissement. La deuxième chose qu'il
faut... Il faut avoir un peu d'épargne pour pouvoir tenir le temps de la conversion.
Il faut de l'épargne, il faut un projet qui a de la crédibilité, puis il faut de l'enthousiasme pour ce projet. La deuxième chose qu'il faut, c'est qu'il faut avoir une structure qui correspond au projet qu'on veut développer. Parce que il y a des systèmes qui sont plus ou moins gourmands en foncier que d'autres. Et donc le foncier peut être une variable d'ajustement ou qui permet pas, parfois, de passer à un système différent. La troisième chose, c'est qu'il faut de la compétence technique. On change pas de métier tous les jours, on vient pas d'animateur radio, animateur télé comme ça. En agriculture, c'est pareil. Il y a des expériences nouvelles à acquérir et qui font que les agriculteurs, il faut qu'ils soient bien formés à la transition. Et c'est pas toujours évident quand on a un métier aussi prenant que celui d'agriculteur, de se former et puis d'acquérir toute la compétence qu'il faut pour changer.
Et si on remplit ces trois conditions, Vincent Châtelier, on peut faire ce changement, mais est-ce qu'il peut aussi y avoir des autorisations administratives nécessaires parce que, étant donné que l'agriculture est aussi basée sur un système d'aide, on peut pas passer d'une aide, d'un type d'aide à un autre type d'aide facilement.
Alors effectivement, c'est extrêmement complexe, mais c'est bien maîtrisé. C'est un métier de chef d'entreprise, quelle que soit la forme de transition. Donc l'agriculteur, quand il va faire ses investissements, il va intégrer évidemment les aides qu'il peut obtenir, et il y a des aides. Il y a des aides ciblées, peut-être insuffisamment, mais il y a des aides ciblées pour la transition dans les systèmes techniques. Il peut toucher des aides, mais il va en perdre de l'autre côté. Donc je suis tout à fait rassuré sur le fait que les agriculteurs, en tant que chefs d'entreprise, savent faire leurs calculs. Il faut surtout de la motivation pour changer.
Samuel Vandel, je rappelle, vous êtes le secrétaire général des jeunes agriculteurs. Oui. Est-ce que c'est pas plus facile finalement quand on veut se lancer dans cette nouvelle façon de produire, de le faire au démarrage d'une activité plutôt que dans une approche de conversion de son activité?
Alors, c'est pas évident parce qu'en fait, quand on se lance, on a aussi d'énormes investissements, on reprend une exploitation et donc on reprend aussi un système qui est là, on cherche un peu nos marques et donc c'est pas évident du jour au lendemain, quoi. Vincent Châtelier l'a très bien expliqué, du jour au lendemain de tout changer parce qu'on a aussi des investissements derrière, il faut qu'on ait un petit peu de rentabilité, il faut qu'on essaye d'avoir un revenu et quand on s'installe c'est pas toujours évident.
D'autant que quand on se lance c'est souvent en reprenant l'exploitation familiale,
en créant.
Il y a déjà quelque chose qui existe et qu'il faut de toute manière convertir.
Mais même pour la personne qui crée aujourd'hui, elle doit forcément investir de l'argent et c'est pas toujours évident. Donc cette conversion, qu'elle soit vers les labels de qualité ou vers l'agriculture biologique, elle se fait progressivement et donc elle se fait au moins après 5 ans. Voilà, c'est ça. Juste pour rebondir à ce que disait Vincent il y a deux secondes, ce qu'on pourrait appeler d'une agriculture conventionnelle, industrielle, comme moi, on pourrait dire éventuellement que je suis en agriculture conventionnelle, oui, mais à côté de ça, j'utilise aussi de la bouillie d'ail, de la bouillie d'ortie sur mon blé, j'utilise des oligo-éléments sur mes betteraves, qui sont des stimulateurs naturels de défense, donc c'est pour ça que je revendique que je fais de la qualité. Comment ?
Vous êtes prêt à passer en bio ?
Mais non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, sur la filière en céréales en bio n'est pas organisée. Donc, mettons pas la charrue avant les bœufs, et attention, il faut organiser les filières.
Expression particulièrement bien
adaptée. Voilà, il ne faut pas imposer de faire du bio avant d'avoir organisé les choses.
Moi, je n'ai pas imposé, j'ai dit que tu étais prêt.
Stéphanie Pajot, ça s'est passé comment, vous ? Est-ce que le fait d'être productrice de lait bio, est-ce que ça, c'est l'objet justement d'une conversion que vous avez faite ou
non,
vous avez démarré
non,
comme
alors
ça ?
Justement, moi, je suis l'exemple inverse de ce qui s'est dit, c'est-à-dire qu'en tant que jeune agricultrice, nous, on a démarré tout de suite en bio. C'est-à-dire que c'est un choix délibéré, alors que les fermes qu'on reprenait, la ferme de mes beaux-parents et la ferme d'à côté, étaient en conventionnel, et une des fermes était en conventionnel assez intensif, et nous, on a fait le choix de prendre les fermes et de les passer tout de suite en agriculture biologique.
C'est un choix choix notamment économique, c'est-à-dire parce que vous aviez étudié le marché en vous disant je sais que je peux me lancer dedans et que
non,
ça sera quelque chose de rentable.
C'était un choix de conviction, c'est-à-dire le souhait de produire des aliments de qualité et de ne pas utiliser des produits dangereux pour ma santé, la santé de ma famille et de l'environnement. Donc c'est d'abord un choix de conviction et puis évidemment on a fait des études économiques et c'est vrai qu'à l'époque on n'était pas beaucoup épaulé. Il y a 18 ans, on ne croyait pas trop à la filière bio. Maintenant, ça va un peu mieux. Mais en tout cas, donc voilà, nous, on a fait le choix d'y aller tout de suite. C'est vrai qu'il faut... Cette transition, elle demande du temps. Elle demande effectivement d'y croire. C'est pour ça que nous, on accompagne, notre réseau bio accompagne les producteurs à changer de système. On organise des groupes d'échange, des travails collectifs pour les aider, parce que ce n'est pas évident. Et c'est vrai que l'idéal, c'est que ce soit mûri. Sauf que ce qu'on a vécu en 2015 en filière laitière, en bio, en fait, ça n'a pas du tout été le cas. C'est-à-dire qu'avec la crise en lait conventionnel, on a eu une arrivée massive de producteurs qui ont décidé de passer à l'agriculture biologique parce qu'il y avait des prix rémunérateurs et parce qu'ils ne savaient pas comment faire autrement. On ne leur donnait pas d'alternative réelle. Et donc, du coup, on se retrouve avec des gens, effectivement, qui ne sont pas forcément tellement préparés à passer à bio et qui doivent complètement reconfigurer leur système qui doit être basé sur le pâturage notamment. Et là, il y a des enjeux forts et c'est là-dessus que nous, on interpelle les candidats à la présidentielle, mais aussi les régions, sur les budgets alloués pour accompagner ces producteurs à changer de système, c'est-à-dire accompagner les réseaux bio et les réseaux des chambres d'agriculture pour qu'ils soient en capacité de les aider à changer de système. Et puis sur les aides, parce qu'il y a tout de même des aides pour les aider à changer de système, les aides de la politique agricole commune. Et aujourd'hui, il y a un gros problème budgétaire.
Philippe Pointreau, dans votre scénario After 2050, est-ce que cette problématique de la conversion, qui n'est pas une mince problématique, vous la prenez en compte et vous imaginez, vous budgétez aussi peut-être ce que cela va demander en termes d'efforts financiers notamment pour convertir cette agriculture française ?
Alors non, on n'a pas encore budgétisé, c'est ce qu'on va démarrer, là on va s'attaquer un petit peu au... notamment dans le cadre des élections, au type de propositions qu'on peut faire pour cette transition qui nous paraît nécessaire et indispensable. Mais on avait regardé quand même l'emploi. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que les tendances actuelles, c'est quand même une forte suppression de l'emploi agricole. Très très rapide. Et nous, ce qu'on a montré, c'est que dans ce scénario-là, on arrive par rapport à un scénario tendanciel à créer plus d'emplois. Donc je pense que l'emploi est un véritable enjeu en agriculture. Et je pense que là où... Enfin, sur la transition, c'est vrai qu'il faut du temps, il faut créer aussi les ateliers de transformation, les laiteries, passer en bio, ça veut dire aussi séparer du conventionnel. Donc c'est vrai que ça demande de l'anticipation. Mais il faut voir quand même qu'il y a des agriculteurs au bout du rouleau dans certains systèmes, en lait en particulier. Nous, on a vu il y a quelques années des gens... se convertir à la bio en l'espace de 2 ans. Et donc, ça peut être très rapide quand on est acculé pour des raisons financières. Après, je pense qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui les territoires qui sont favorables à cette transition, qui sont en train de l'accompagner. C'est ce qu'on appelle les systèmes alimentaires territorialisés, qui sont dans la loi la nouvelle loi d'orientation agricole, où les collectivités viennent accompagner les agriculteurs, à la fois en les aidant à se convertir, en essayant de mettre en place des circuits dans la restauration collective ou des magasins paysans, sur l'installation foncière, parce qu'il y a un gros problème d'accès au foncier pour installer des jeunes agriculteurs dans ces filières-là. Donc les collectivités peuvent se mobiliser, mais aussi les structures comme Terre de Liens, qui chaque année achètent une vingtaine de fermes et permettent à des jeunes de s'installer en bio. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une dynamique qui est en train de se créer dans les territoires qui ont envie que l'agriculture se maintienne, qui veulent des produits de qualité. Enfin, moi, j'insiste quand même. On n'arrive pas à réduire l'usage des pesticides en France. Les pesticides ont un impact fort sur la santé des gens, et en particulier des agriculteurs. Donc il faut quand même qu'on arrive à sortir de cette impasse. Et moi, je pense que nous, ce qu'on a montré, c'était que c'était techniquement faisable. Ce scénario est totalement réaliste. Voilà, alors après, dans la transition, c'est vrai qu'on aura besoin de tout le monde. Il n'est pas question comme l'a dit, enfin de faire de la répression, je veux dire, comme le disait Samuel Vandal, on va pas imposer aux gens de comment ils vont se nourrir.
Mais disons qu'il y a quand même un système de fortes incitations dans ce qu'on peut lire dans votre rapport. On aurait pu évidemment poursuivre cette discussion encore longuement, mais Vincent Châtelier, vous qui êtes un auditeur fidèle de cette émission, vous savez qu'elle dure 40 minutes. Là, nous en sommes à 39 et que le temps de vous remercier, il sera 39-30. Merci donc, en tout cas déjà à tous les quatre, Vincent Châtelier, Philippe Pointreau, Samuel Vandal et Stéphanie Pajot. Il me reste à quoi faire, Vincent Châtelier, à remercier aussi l'équipe du Grain à Moudre, Fanny Richet, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Philippine Lebray et Louise Fuseau. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Jean-Guilain Meige. Demain, il y aura également Le Grain à partir de 18h20. Ce sera le Club des idées du vendredi qui s'inscrira dans le cadre d'une journée spéciale sur France Culture. Du village au global, comment exister dans la mondialisation. Et nous nous intéresserons à la question de la souveraineté. Dans quel domaine la France est-elle encore souveraine? Peut-être que le sujet de l'agriculture reviendra dans le cadre de cette discussion.